Bonjour, ici Lucie, vous écoutez à l'émission d'information locale et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour. Rencontre avec la responsable du restaurant Timiam pour parler emploi et handicap. Il y aura de la musique, une interview pour annoncer la première du seul en scène documentaire Pièce Manquante et une recommandation de jeu local en recherche de financement. Bienvenue dans l'arène.
Oh oui. Maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
L'info du jour, c'est la grève illimitée qui a débuté aux urgences du CHU de Rennes lundi 15 novembre à partir de minuit. Le service est saturé et les soignants estiment ne plus pouvoir s'occuper des patients dignement. Des patients qui doivent attendre des heures avant d'être accueillis, notamment car le nombre de lits dans les autres services est insuffisant pour les y accueillir rapidement. Résultat, certains passent la nuit sur des brancards. Alors la situation n'est pas nouvelle. Il y a un an, un peu avant le début d'une période de confinement, le monde de la santé était mobilisé à Rennes pour déplorer, entre autres, la saturation du service des urgences rennais. Yvan Leloidec y est infirmier, membre du collectif Interurgences, et racontait les conditions de travail aux urgences, justement, au micro de Canal B. La perte de sens au travail et pour certains le burn-out, en plus des TMS, troubles musculo-squelettiques, liés au métier et à la cadence de travail. On l'écoute.
La situation à l'hôpital est aujourd'hui pire qu'avant la première vague. La saturation des urgences et des chambres doublées un peu partout, c'est inacceptable. Le service des urgences déborde. Un parcours Covid patient est installé depuis le jeudi 24 septembre. Mais comme il n'y a pas assez de lits en aval, les patients restent jusqu'à 24 heures dans la salle de transfert.
Bonjour, je suis Yvan Leloidec, je suis infirmier aux urgences à Pontchaillou. Ce matin, on manifeste, on essaye d'alerter les pouvoirs publics sur le fait que rien ne va mieux, voire pire, en fait, que depuis le confinement. Là, c'est très difficile de mobiliser, on est fatigué, lassé, et puis en fait, on est en sous-effectif, alors la plupart sont au boulot, sont réquisitionnés.
On s'est vu au mois de mai. Depuis le mois de mai, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a eu notamment les conclusions suite aux accords du Ségur.
Il y a eu les accords du Ségur qui ont eu un gros coup de campagne de communication, qui nous ont dit que tout allait changer, que ça allait beaucoup mieux. Absolument pas. Il y a eu des annonces sur les augmentations de salaire. Donc ça a permis surtout de faire taire un petit peu les premières personnes et de faire croire en fait à la population que tout allait aller mieux à l'hôpital, ce qui n'est absolument pas le cas. Depuis le déconfinement, en fait, on assiste donc au même problème qu'avant le confinement. Donc ce qu'on dit depuis des années et des années, qu'il n'y a toujours pas assez de lits, pas assez de collègues pour travailler. Et avec en plus le Covid encore, hein, qui revient là, mais qui était quand même présent cet été. Donc on avait tout ça à gérer. Des vacances qui ont été écourtées, donc on n'a pas eu les vacances qu'on avait d'habitude parce qu'on est en sous-effectif.
Est-ce qu'il y a des collègues qui songent vraiment à changer de carrière?
Bah oui, oui. Ouais, j'ai des collègues qui sont en arrêt là, pour burn-out en fait. Très récemment à Pontchaillou, on a été victime d'une agression et la collègue est parvenue travailler. Et c'est pas en soi de la faute de ce patient-là qui nous a agressé, c'est de la faute, c'est une accumulation de, comme je vous dis, de dire à des Français qui ont cotisé pendant des années et des années pour la sécurité sociale, de leur dire, eh ben désolé, on pourra pas vous soigner, on n'en peut plus, et donc on quitte l'hôpital assez facilement. Moi j'ai encore un peu la foi, mais pour combien d'années, je sais pas.
Comment est perçue la façon dont est gérée la crise par la classe politique? La question justement des lits dans le système hospitalier est peu évoquée.
J'ai pas grand chose à dire à part qu'on est dégoûté. On n'a plus aucune confiance en ce qu'ils disent, on a l'impression qu'à part faire de la communication, il n'y a aucune volonté de soigner les Français qui est pris en compte. Il y a quelques augmentations de lits qui ont été annoncées, mais il n'y a rien de concret qui a été mis en place. Donc les soignants qui fuient l'hôpital parce qu'on n'en peut plus de dire à des gens. Vous allez rester 3 jours sur un brancard parce qu'on n'a pas la place à l'hôpital pour vous soigner, ou vous avez une infection pulmonaire, on va vous mettre en dermato à deux dans une chambre simple parce qu'on n'a rien d'autre à vous proposer. Nous, on en a marre de ça.
C'était l'extrait d'un reportage qui a été diffusé le 16 octobre 2020 dans l'émission d'information. Quant au mouvement de grève en cours aux urgences de Rennes depuis le 15 novembre, eh bien, ce mouvement est accompagné de revendications, toujours les mêmes, de meilleures conditions de travail, une revalorisation salariale pour améliorer l'attractivité dans ce secteur et l'ouverture de nouveaux lits dans les services. Un rassemblement est d'ores et déjà prévu pour l'ensemble de l'hôpital, jeudi 18 novembre à 14h. Depuis le 15 et jusqu'au 21 novembre, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Une 25e édition pour cet événement créé par l'ADAPT, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. C'était en 1997, la première édition. Alors en Bretagne, comme pour les éditions précédentes, les co-organisateurs proposent plusieurs rendez-vous sur les sujets de la jeunesse, de la ruralité, de l'Europe et de l'emploi. Ce mardi 16 novembre, par exemple, était organisé à Rennes une journée coaching et à venir vendredi 19 novembre un webinaire sur l'apprentissage en Europe à destination des personnes en situation de handicap, une rencontre autour du handibasket et du cécifoot entre responsables d'entreprises et travailleurs en situation de handicap et enfin un second webinaire avec le thème suivant qui sera abordé, la mobilité internationale pour les étudiants en situation de handicap. Le programme de cette 25e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées est à retrouver sur le site semaine-emploi-handicap.com. À présent, un exemple concret d'entreprise engagée pour l'emploi des personnes en situation de handicap, il s'agit du restaurant Timiam de l'Association pour la promotion des personnes en situation de handicap à PH, le Pommeret. Le restaurant était installé depuis 2013 rue Vasselot à Rennes, mais vient tout juste de déménager sur le campus Carlane à Bru. Présentation.
Je suis Tiffaine Le Guyadère, je suis responsable restauration à l'ESAT du Pommeret. Donc je suis en charge de trois restaurants dans l'ESAT, donc Timiam, le restaurant du Pommeret qui se trouve à Bréal et nous sommes prestataires à l'INRA, aux rues. Alors, l'ESAT du Pommeret est un ESAT dont le siège se situe à Bréal sous Montfort.
C'est quoi un ESAT pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce type de structure ?
Alors, un ESAT, c'est un établissement et service d'aide au travail. C'est anciennement, on les appelait les CAT. Dans un ESAT, ce sont des personnes en situation de handicap qui y sont accueillies. Chez nous, au Pommeret, elles sont accueillies par une équipe pluridisciplinaire, dont des moniteurs d'atelier qui les aident au niveau professionnel, mais aussi des chargés d'insertion qui vont les aider pour dans leur parcours au sein de notre ESAT. On va avoir toute une équipe de psychologues, psychiatres. Donc, c'est toute une équipe qui se charge du parcours des travailleurs. Ce parcours est sur une durée de 4 ans et ce qui va permettre à ces personnes de pouvoir accéder au milieu ordinaire après ce parcours de 4 ans au sein de l'ESAT. Cette ESAT propose aux personnes en situation de handicap de se former sur différents métiers tels que la restauration. Nous avons aussi tout ce qui est activité espace vert, donc espace vert dans les entreprises ou chez les particuliers. Et nous avons aussi un pôle tourisme qui est représenté par les jardins de Brocéliande qui se trouvent à Bréal-sous-Montfort. Donc nous formons sur beaucoup de métiers comme cuisinier, serveur, des gens qui travaillent en espace vert, sur l'accueil au niveau du tourisme. Donc on englobe pas mal de métiers.
Et l'ESAT du Pommeret, il existe depuis quand ?
Alors l'ESAT du Pommeret existe depuis pas mal d'années. Il a été créé dans les années 80, c'est en 1987.
Timiam, c'est quoi ?
Timiam fait partie donc de l'ESAT du Pommeret. Nous avons créé ce nouveau type de restauration sur Rennes en 2013. Il était au tout début implanté rue Vasselot. On était dans des petits locaux. À l'époque, on proposait une restauration rapide avec des produits locaux, frais et de saison. Aujourd'hui, on a voulu se développer. On a profité, entre guillemets, de la crise sanitaire pour effectuer notre déménagement sur le campus de Kerlan, où là, nous avons trouvé un bel endroit pour nous implanter. Donc, on est beaucoup plus grand. Donc, désormais, on offre à Kerlan, au cœur du campus, un établissement avec un restaurant, une sandwicherie, un bar, un pôle pizza et des plateaux repas destinés aux entreprises.
La crise sanitaire, elle a amené à ce déménagement, à la diversification des offres. Mais comment s'est déroulée cette année et demie pour les restaurants qui ont du coup être mis à l'arrêt ?
Donc, nous avons acquis ce nouvel établissement en novembre 2020. Et comme nous l'avons acquis, il y avait la fermeture des restaurants. Donc, on en a profité pour faire des travaux dans ce nouvel établissement que nous venions d'acquérir. Toute l'équipe, en fait, est restée sur place pour préparer cette ouverture de restaurant. L'ouverture de restaurant a eu lieu en début février, où là, on a pu faire du à emporter. Et en mai 2021, nous avons pu ouvrir à demi-jauge le restaurant avec notre équipe. Nous, on a vu un côté positif, puisque nous, ça nous a permis de démarrer tranquillement. C'est-à-dire qu'on a eu le temps de faire nos travaux, de préparer les équipes, de les former. Et en plus, on ouvrait à demi-jauge. Donc en fait, nous, l'un dans l'autre, ça nous a un petit peu arrangé. Même si sur le côté purement financier, ça a été un petit peu compliqué. Donc on a suivi les ouvertures au niveau de la restauration. Et donc ensuite, on a pu rouvrir à 100%. Et en général, on s'en est pas mal sortis, on va dire.
Avec une inauguration qui a eu lieu le 14 septembre dernier. Qui sont les employés de ce restaurant ?
Donc, à Timiam, nous avons deux types de personnes. Nous avons donc les encadrants. Donc, les encadrants vont être le chef de cuisine, le second de cuisine, le barman, la responsable de la sandwicherie, la responsable des plateaux repas, le serveur professionnel. Et à côté de cela, nous avons toute une équipe de travailleurs en situation de handicap qui vont se former sur les différents métiers. Donc, par exemple, en salle, on va avoir le serveur professionnel qui accompagne les personnes qui vont servir. Pareil en cuisine, on a le chef de cuisine et la seconde de cuisine qui sont les encadrantes, mais on va avoir les personnes en situation de handicap qui vont travailler à leur côté et qui vont être de plus en plus autonomes. On va avoir une quinzaine de personnes en situation de handicap, donc sur plusieurs métiers. Et les handicaps, ils sont très divers. On va avoir des handicaps physiques, comme des personnes qui vont être malentendantes ou malvoyantes. On va avoir des personnes qui vont avoir des handicaps psychiques, des handicaps sociaux, des handicaps mentaux, avec une maladie mentale. Donc vraiment, on a beaucoup de différents types de handicaps.
Quels sont les encadrements, les adaptations prévues pour ces personnes en situation de handicap ?
Alors, le but de notre ESAT est que les personnes aillent après 4 ans vers le milieu ordinaire, mais il est vrai qu'ils vont avoir des petites difficultés pour y arriver. Donc nous, à l'ESAT, on va mettre en place des outils. On va appeler ça des outils. Je vais prendre un exemple très concret. On utilise par exemple énormément de checklists. Par exemple, pour la mise en place de la salle, on va avoir une checklist où il y a marqué toutes les tâches à effectuer avant le service. Comme par exemple, remplir les carafes d'eau, remplir les corbeilles de bain. Donc là, ça va être une checklist qui peut être écrite pour les gens qui savent lire. Pour les gens qui ne savent pas lire, on va avoir des checklists avec des photos. On a énormément de personnes qui travaillent, par exemple, à temps partiel, à 80%, à 50%, un jour sur deux. selon les personnes. On ajuste le temps de travail. On va avoir sur le matériel également. Par exemple, on va parler de la crise sanitaire. Nous avons une personne malentendante, donc on a mis à disposition des masques transparents pour qu'on puisse communiquer avec cette personne. Au niveau du travail, on va avoir du matériel qui est plus adapté. Par exemple, pour la personne qui est en caisse, on va avoir des assis debout. La personne est un petit peu fatiguée, elle se repose un petit peu sur son tabouret, etc., etc.
Qui est le public visé par les services de ce restaurant sur le campus Kerlan, qui sont les clients qui viennent ?
Alors, les clients qui viennent sont de deux types. Nous avons donc des étudiants qui vont venir manger à la sandwicherie, qui vont consommer au bar. Et on va avoir une autre clientèle qui est un petit peu plus une clientèle affaires, qui va venir déjeuner au restaurant. Parce que Kerlan, en effet, c'est un campus universitaire, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se sont installées, qui avaient besoin de ce type de restaurant pour se rencontrer, pour inviter des clients, pour manger le midi, etc. Alors, en moyenne, là, on est vraiment qu'au démarrage, hein. On aimerait, on pense se développer beaucoup plus par la suite, mais aujourd'hui, on est à peu près à une cinquantaine de clients par jour au restaurant, sur une capacité de 70. Et en sandwicherie, on est à environ une centaine de personnes par jour.
We'll be right back.
Vous écoutez Canal B sur le 94.0 et c'était Sam Evian avec le titre Never Know à l'instant. Une nouveauté, un titre tout nouveau qui a été choisi par Yann, c'est notre programmateur musical ici à la radio. Clara Luce Pueyo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes documentariste, maître de conférences associé au département art du spectacle et cinéma à l'université Rennes 2. Et vous êtes l'autrice et metteuse en scène de ce spectacle à venir, Pièce manquante, qui sera joué jeudi 18 novembre aux archives municipales de Rennes. Ça commencera à 18h. Ça se passe dans le cadre des jeudis des archives qu'on annonce dans cette émission d'information assez régulièrement. Alors le personnage de ce seul en scène documentaire, il se trouve qu'il s'appelle Claire. On pense donc à vous. Clara, est-ce que l'idée de ce spectacle, il s'appuie avant tout sur votre propre expérience du souvenir familial ?
Oui, tout à fait. En fait, je suis partie de cette histoire à la première personne. Et là, le but du jeu, c'était de jouer avec la question de l'autofiction et de voir comment une histoire en particulier rejoint l'histoire collective. Comment est-ce qu'on traverse dans nos sociétés ? Bah, forcément, c'est ce qu'on peut retrouver chez chacun et chacune d'entre nous.
Est-ce qu'il s'agit là de votre première création sous forme de seul en scène, comme ça, sur scène ?
Oui, tout à fait. Bah, je suis plutôt habituée aux documentaires audiovisuels, aussi au format radio, mais pas au seul en scène de théâtre. Donc c'est une nouvelle aventure qui est née grâce à la rencontre du collectif La Cavale, qui est un collectif lillois, mais qui regroupe des artistes qui viennent de Rennes, de Paris et de Lille.
Et pour interpréter ce personnage de Claire sur scène, il y a la comédienne Céline Dely. Comment est-ce qu'elle a eu lieu à la rencontre avec elle ?
Ben, elle a eu lieu dans ce cadre professionnel, puisqu'on s'est rencontrés sur des projets de spectacles documentaires, donc notamment Le Dernier Bus, et elle interprète aussi un personnage dans Joe et Léo, voilà, qui est un spectacle pour lequel j'ai pu aussi contribuer.
Alors pour aboutir à ce spectacle Pièce manquante, il y a eu un travail de résidence long qui s'est étalé sur 2 années et dans plusieurs lieux. Long parce qu'il y a peut-être eu la crise sanitaire qui a un peu ralenti l'avancement du projet, ou alors c'était le temps nécessaire
Bah, c'était le temps nécessaire, puisque effectivement l'écriture elle a commencé en 2019 à La Paillette, à Rennes, et elle s'est étalée effectivement, c'est aussi un peu le principe des résidences, c'est-à-dire qu'on bouge, c'est aussi des occasions de rencontres, de découvrir des lieux, découvrir d'autres spectacles, d'autres manières de travailler, et à chaque fois, pour le coup, et ça répond aussi à la diffusion du spectacle, c'est que les lieux ont beaucoup beaucoup influencé notre travail. Donc il y a eu du travail d'écriture, il y a eu du travail au plateau avec Céline, on a beaucoup beaucoup échangé. Donc voilà, c'est vrai qu'on a un peu bougé, on a été à Saint-Nazaire, à Lille, à Rennes pas mal, à Bécherelle aussi.
La Paillette, voilà. C'est un des lieux les plus importants dans la construction de ce projet. Vous y avez passé pas mal de temps.
J'y ai passé pas mal de semaines, effectivement, dans différentes manières de travailler, puisqu'il y a eu de l'écriture où là j'étais vraiment seule. Il y a eu du travail au plateau avec une metteuse en scène, avec Céline.
Et un scénographe aussi, quand est-ce qu'il est intervenu le scénographe ?
Ouais, bah en fait, donc on a travaillé avec Nicolas David de Vitrine en cours pour justement travailler la question de la place des diapositives au plateau, la manipulation aussi du projecteur. Et ça a été une super rencontre, puisque voilà, tout de suite ça fait un petit peu éclater l'artistique au plateau. Donc voilà, on a travaillé ensemble à La Paillette et là on s'est revus puisqu'on a 3 jours de travail à l'air libre au studio pour bien finaliser notre travail.
À voilà. L'air libre à Saint-Jacques-de-la-Lande. Alors vous parlez de diapositives, on va arriver tout à l'heure à tout ce qu'il y a autour de ce personnage sur scène, mais avant peut-être un mot sur les rencontres qui ont eu lieu en plus des résidences pour nourrir ce projet Pièce manquante. Il y a eu des rencontres plutôt avec du jeune public, des collégiens, évidemment avec les archives municipales à Rennes, le lieu où va se dérouler ce seul en scène documentaire, et puis avec un public de seniors où là on voit un lien direct avec le sujet qui évoquait, celui de la mémoire.
Oui, bah c'est vrai que les rencontres elles ont été déterminantes aussi dans la construction du projet, puisqu'on a travaillé autour des souvenirs, autour de la mémoire, et de voir comment cette matière, elle est vivante, comment est-ce qu'elle a aussi une place vraiment au plateau. On a travaillé de différentes manières, en fait. Ça pouvait être des discussions, notamment avec les seniors, de voir aussi comment est-ce que chacun et chacune a un lien très intime à ces questions-là. Des personnes pour qui il faut absolument effacer les choses, des personnes pour qui il faut les garder... voilà, de pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui prennent de la place en nous alors qu'on n'en a pas forcément envie. Enfin, voilà, ça a déroulé plein de questions très, très chouettes. Et en fait, ça a fonctionné aussi avec les collégiens. On a travaillé là sous forme d'ateliers d'écriture et de lecture avec Céline. Et ça, on s'est rendu compte aussi que cette matière, elle avait une vraie place, en fait, au plateau. Et effectivement, vous parlez de la rencontre aux archives. Donc c'est vrai que j'ai rencontré Violaine Tissier-Lenénaon et ça a été une rencontre complètement déterminante pour le projet. Parce que voilà, il y a eu cette question du vivant, en fait, de la place de la mémoire dans ce qu'on est et dans nos futurs.
Alors, avant d'arriver à ce qui se passe pour ce personnage Claire, un mot sur le décor autour d'elle. Il y a des cartons, des vieilles cassettes VHS, des diapositives, des enveloppes et autres objets. Le choix de ce lieu, les archives municipales de Rennes, comment est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que ça a été une évidence? Et est-ce que vous le connaissiez déjà ou vous l'avez découvert en construisant le projet?
Alors, je le connaissais, mais pas aussi bien qu'aujourd'hui, évidemment. Et en fait, cette diffusion dans ce lieu, elle est née de cette rencontre, justement, avec Violaine Tissier-Lenénaon. Et c'est vrai qu'en fait, au fil des résidences, on s'est aussi posé la question de où est-ce qu'on avait envie de montrer ce spectacle, comment est-ce qu'on avait envie que ça communique, en fait, avec l'extérieur, avec le public. Et on s'est aussi rendu compte que c'était un projet qui était ouvert. Et en fait, en fonction de là où il joue, ben, son sens même, son essence, en fait, prend de nouvelles dimensions. Et aux archives, ben, évidemment, c'est éclatant. Et on a vraiment très envie de jouer dans des lieux différents. On a bien sûr envie de jouer au plateau, puisque ça fonctionne aussi. Mais comment est-ce qu'à chaque fois, voilà, tout l'environnement va venir jouer pour le public et pour nous.
Toute la matière qui a été utilisée pour réaliser ce spectacle, pièce manquante, il y a donc des diapositives, des photos, on a dit quoi, des enveloppes, vous êtes allé les chercher où? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce que les spectateurs vont voir sur scène?
Bah, tout est de la matière documentaire, c'est aussi de la matière qui est issue de notre histoire, beaucoup de nos livres, de voilà toute cette iconographie en fait patrimoniale pour le coup. Donc voilà, il y a forcément des choix qui ont été faits. À aucun moment il s'agit d'être objective pour moi, c'est vraiment une question de point de vue, de regard. Et donc toutes ces matières, j'ai été les chercher dans mes archives familiales et dans les archives collectives. Voilà.
Et quel est le regard peut-être de votre famille sur le travail que vous menez, qui est un travail quand même qui relève de l'intime? Vous partez du réel pour quand même aller vers du fictif, comment c'est perçu ça?
Bah ça, après ça reste de l'autofiction, bien sûr il y a la question de l'image, donc voilà, c'est quelque chose sur lequel ils me font confiance, j'ai envie de dire, enfin voilà, c'est ils ont hâte en fait de découvrir aussi la forme finie, de voir un petit peu comment ça a évolué aussi.
L'histoire, c'est la suivante. Claire débarque sur scène au milieu des archives de son enfance à un moment dans sa vie où elle doit faire du tri. Pourquoi?
Ben justement, ça c'est une question ouverte, parce qu'en fait c'est aussi au fil des discussions, des échanges et de l'expérience, on se rend compte que bah voilà, ça peut être des moments différents pour chacun et chacune, ça peut être au moment d'une séparation, ça peut être au moment d'un deuil, ça peut être au moment d'un déménagement tout simplement, mais qu'en fait on accumule des choses. Qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ces archives elles racontent de nous, et comment est-ce que notre manière de les regarder au fur et à mesure du temps, elle raconte aussi des choses sur qui on est, sur le monde dans lequel on vit.
Et justement le personnage au fur et à mesure réalise que en regardant ses archives, ses souvenirs, que l'histoire des femmes de sa famille a été effacée en quelque sorte. Comment ça se fait?
Bah en fait c'est une responsabilité individuelle et collective, c'est-à-dire que elle se rend compte que tout ce qui reste, ce sont des images des hommes, des archives des hommes, le fameux patrimoine, et que, en fait, qu'est-ce qui reste ? Et ça pose aussi la question de la mémoire immatérielle aussi, qu'est-ce qu'on se transmet, comment est-ce qu'on se le transmet, comment est-ce qu'on infuse de ces éléments-là, en fait. Et voilà, donc elle fait ce trajet-là et elle va faire une promesse au monde, d'une certaine manière.
Ça ramène même plus à l'histoire, on va dire la grande histoire de France, pas uniquement à l'histoire familiale. Aujourd'hui, on parle beaucoup du matrimoine, de ces femmes qu'on a effacées de l'histoire. C'était une idée que vous aviez en tête en écrivant le spectacle ?
Bien sûr, ouais, c'est un spectacle qui se construit avec ce qui se passe autour de moi, pour le coup, et ça, c'est quelque chose aussi qui est dit dans le spectacle, c'est-à-dire que cette question et cette place accordée au matrimoine, elle vient aussi des portes qui sont ouvertes par d'autres, et de cette question de l'échange, parce qu'en fait, si on échange, nos points de vue, notre manière de regarder le monde, elles peuvent se déplacer, et donc c'est ce qui arrive à ce personnage-là.
Par rapport au personnage de Claire, sur ce qu'on fait des souvenirs de sa famille, elle, quel est son choix ? Là, elle est en train d'essayer de faire du tri. Elle essaye de sauver ses souvenirs. Elle souhaite en oublier certains. Elle a quelle posture ?
Justement, c'est une démarche, en fait. C'est une histoire qui va évoluer au fur et à mesure du spectacle. Donc voilà, elle arrive aussi chargée d'affirmations et de certitudes. Et sauf qu'en fait, voilà, ça va, les choses vont se fissurer. Il y a des creux qui vont émerger. Et donc voilà, ça va être à elle de construire les choses.
Le moment du spectacle, il est aussi présenté comme une visite sensible pour les spectateurs, une visite des archives municipales de Rennes. Vous l'avez dit, en fait, le spectacle, il existe dans deux versions, une version en plateau, donc plutôt statique, et une version en déambulation. Là, pour la première représentation, jeudi 18 novembre, il s'agira d'une visite mobile.
Tout à fait, ouais, c'est une manière dont les archives ont envie de construire le rapport du public aux archives, justement, de découvrir le lieu et ce qu'il contient, puisque voilà, ces fameuses archives de manière différente. Et c'est vrai que c'est au cœur de pièces manquantes. Donc c'était très cohérent aussi de pouvoir travailler ces deux éléments-là. Donc on va commencer dans un magasin et puis on va se déplacer. Voilà, je vais pas trop révéler ce qui va se passer.
On garde un peu de surprise. Et il y aura d'autres représentations en plus de cette première date, le 18 novembre, au cours de l'année 2022. Ça se passera toujours aux Archives de Rennes avec plusieurs dates proposées. On peut déjà les annoncer ?
Oui, complètement. Il y a le 27 janvier à 18h, le 10 mars à 18h et le 5 mai à 18h également.
Un spectacle donc à découvrir le jeudi 18 novembre à partir de 18h aux Archives municipales de Rennes. Le nom de ce seul en scène documentaire, c'est Pièces manquantes, et dont vous êtes l'autrice et la metteuse en scène, Clara Luce Pueyo, avec cette comédienne Céline Dely qui sera sur scène pour interpréter le personnage de Claire. Ça se passe donc aux Archives municipales. Il faut s'inscrire auprès de cette structure sur le site internet archives.rennes.fr. C'est un spectacle qui est gratuit, mais sur réservation et évidemment présentation d'un pass sanitaire. Merci beaucoup.
Merci.
J'ai rêvé cette nuit que tu dansais au milieu d'une terre brûlée, comme si les pas t'appartenaient, comme si tu les avais inventés. Avec les joues rondes des mecs qui n'ont pas peur du froid, des yeux qui tremblent sur le monde, mais des mots qui ne viennent pas. Dis-moi comment tu plantais la neige, comment nous sommes faits de pierre. Je veux t'écrire une chanson Les chiens n'entrent plus à la tombée du jour. Et dehors les lunes hurlent à la mer. Les oiseaux quittent tour à tour. Toi, tu dessines des tempêtes. Tu restes là, cloué au sol. La blessure au bord de l'air. Et si ton cri lançait la révolte, mes jambes tremblent quand tu te soulèves. Sur la baie, j'ai brisé les lois. Un seul incendie. On n'est pas venu au monde se consacrer à la misère. Les maisons qui logeaient nos vices, je les ai démolies. Faut bien donner.
Giorne venera, aula y taco, ulumenta por yartilgo, meten pesa la oxima gama, chinete una ventana de angu para la otra, atata ganó, anara ganó, lo nica la gama, pisani, ulla sama de la oxima yamana, la llegué por la aquí, hasta el autumán.
Avec le titre « Ton vieux nom » sur Canal B que vous écoutez, branché sur le 94.0. Vous écoutez à l'Arène, c'est l'émission d'information locale. Et on va terminer ce temps d'information avec une recommandation. Un financement participatif qui est en cours pour la fabrication d'un jeu de société. Chronoludique, c'est le nom du jeu, est à la fois un jeu chronologique et interactif sur l'histoire de la Bretagne, à 5 départements, on précise, qui a été créé par Erwan, un Brestois. L'objectif est simple, il faut placer ses cartes, des cartes illustrées, sur une frise chronologique et le premier joueur à se débarrasser de l'ensemble de ses cartes l'emporte. Des alignements de menhirs de Carnac aux victoires de Bernard Hinault sur le Tour de France, du couronnement d'Anne de Bretagne à la première édition des Vieilles Charrues, de la création du Guenadu au naufrage de l'Erika, de la naissance de François-René de Chateaubriand à l'invention du Minitel, c'est en tout cas l'occasion de se remettre à niveau sur l'histoire de la région. Pour filer un coup de pouce sur ce projet, rendez-vous sur le site de la plateforme de financement participatif kengo.bzh, K-E-N-G-O. 4000 euros sont nécessaires pour imprimer 5000 exemplaires. L'impression est prévue en Bretagne, ça c'est chouette. Et les créateurs font donc appel aux particuliers pour en financer une partie, 7500 euros. Un peu plus de 50% de la somme a été récoltée pour le moment et il vous reste 16 jours pour participer avec l'idée de lancer la production, vous l'imaginez, pour les fêtes de fin d'année. Pour plus d'informations, Chronoludique dispose d'une page Facebook, d'un compte Instagram et il y a également le site internet de la société créée à l'occasion. macajeu.fr, M-A-C-A-Jeu au pluriel. L'Arène, c'est terminé. Votre émission d'information locale s'écoute du lundi au vendredi à 17h, puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Et puis il y a aussi les podcasts à écouter à tout moment sur canalb.fr. À bientôt sur Canal B.